Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé.
Visiblement, les Québécois vont devoir continuer de prendre leur mal en patience parce que les délais d'attente aux urgences piétinent depuis des années. En moyenne, on patiente environ 17,4 heures sur une civière avant d'avoir un lit à l'étage. L'objectif du ministère de la Santé est de 17 heures, mais ça diffère d'une région à l'autre, ce n'est pas égal et dans le Grand Montréal, c'est pas rare, selon ce qu'on peut lire dans le journal, que les hôpitaux dépassent les 20 heures ou même les 30 heures. Mais ça, c'est attendre sur civière avant d'avoir un lit à l'étage. C'est pas attendre dans la salle, sur un petit banc, avant d'être vu par un médecin, là. C'est autre chose. Docteur Gilbert Boucher est président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Bonjour, Docteur Boucher.
Bonjour, M. Dubé.
Je sais à quel point vous travaillez fort dans le réseau de la santé, là, puis je vais certainement pas casser du sucre sur votre dos, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à améliorer tant que ça la situation? Pourquoi ça stagne?
Bien, je vous dirais, la première chose à parler, c'est que la tendance a été renversée. Hein. C'est la première année depuis la pandémie que les chiffres s'améliorent un petit peu. Comme vous le mentionnez, ça demeure que c'est des chiffres qui sont pas acceptables. Effectivement, on travaille très, très fort. Je vous dirais que la dernière année, là, le 23-24, ça a été une année de bloc. Hein. Alors, on a mis la cellule de crise sur place, on avait beaucoup de projets. Puis qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on peut pas utiliser les mêmes manières de changer le système qu'on utilise depuis 5-10 ans parce que ça n'a pas beaucoup d'effet dans le système. Alors, depuis le mois de décembre cette année, là, l'espèce de version 2.0 de la cellule de crise, on a vraiment impliqué les PDG, les décideurs locaux. Puis je peux vous dire, sur le terrain, il y a une amélioration là, depuis 2-3 mois. Malheureusement, on ne voit pas beaucoup dans les statistiques, mais encore là, il faut quand même voir qu'il y a une tendance vers la baisse, puis c'est la première fois qu'on peut dire ça en 4 ans, mais on le répète, là, c'est pas encore acceptable.
Oui, parce que, Dr Boucher, lorsqu'on attend des heures et des heures avant de voir un médecin, okay, puis après ça, on attend encore une fois sur la civière, avant d'avoir un lit à l'étage, qu'est-ce qui arrive avec notre État? Est-ce qu'on continue de dépérir?
Bien, tout à fait. Puis on le sait, là, la population gériatrique, c'est encore pire. Leurs temps d'attente sont encore plus longs. C'est malheureusement souvent des P4, P5, hein, les personnes gériatriques qui viennent dans nos urgences, qu'on met sur des civières, s'ils ne sont pas en danger de mort, leurs signes vitaux sont stables. Alors malheureusement, le système de triage fait qu'il faut qu'on s'occupe des gens qui sont, leur danger de leur vie est là. Mais effectivement, une personne âgée qui passe de nombreuses heures, on le voit là. 24 heures, vous passez ça en dessous d'une lumière toute une nuit, vous dormez pas, puis le lendemain, vous êtes excessivement confus. Alors, il y a beaucoup de choses, à améliorer. Vous parlez de la salle d'attente, là, c'est ça que le 2/3 des Québécois voient, en fait, la salle d'attente. Puis on le sait, là, on les voit, il y a toujours plus que 10% de nos patients qui partent sans voir de médecin. La prise en charge est difficile. Alors, je peux vous dire qu'il y a énormément de chantiers, là, mais malheureusement, ça s'est pas encore reflété. Mais écoutez, ça s'est quand même amélioré un petit peu. Pour nous, c'est quand même une grosse différence depuis les 4 dernières années.
Ouais. D'une région à l'autre, ça varie beaucoup, hein?
Oui, effectivement. Puis ça, on le voit, là, Montréal puis ses couronnes, c'est vraiment, faut le dire, là, très, très grave. Les temps d'attente sont très longs. Oh, définitivement. Il y a certaines régions où ça va beaucoup mieux. Puis ça dépend aussi des virus. Là. On l'a vu cet hiver à Québec, il y avait des semaines qui étaient beaucoup plus difficiles parce que l'influenza les frappait tout d'un coup. Il y a des semaines qui étaient moins pires. Même chose pour les cantons de l'Est, le Saguenay. Alors, il y a des régions où est-ce que ça va mieux. Je vous dirais qu'il y a plus de... Par population, il y a peut-être plus de lits. Les choses sont organisées différemment. Mais effectivement, il faut améliorer les choses. C'est pour ça que la cellule de crise, en fait, au début, on s'est vraiment concentré sur le 450-514 parce qu'on sait que c'est là que les gens attendent le plus longtemps et qu'il y a plus de gains à les faire.
Vous avez fait référence à la population qui est vieillissante. Est-ce que l'annonce de ces cliniques gériatriques... Au début, on parlait là, de mini-hôpitaux, mais là, j'ai l'impression un peu que la vocation va changer un peu. Est-ce que ça va contribuer à diminuer un peu la pression sur nos urgences?
Mais on l'a appris en même temps que vous, en fait.
Ah oui?
Il y a eu de consultations à travers les soignants pour, par rapport à ce projet-là.
Okay.
Il y a quand même des bonnes choses. Il faut toujours mettre, il faut tout faire pour pas amener les patients gériatriques aux urgences. On a tout ce qu'il faut pour que ça soit le pire environnement pour eux. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Ils peuvent pas dormir. C'est très bruyant. Tout est petit. Alors, c'est vraiment pas un milieu qui est optimal pour eux. Maintenant, comment ne pas les amener à l'urgence? Il y a différents modèles. Quand on parle aux gériatres, eux, ils ont plusieurs options qu'ils voudraient mettre en place. Le gouvernement est sorti avec les mini-hôpitaux. Fait qu'on va attendre d'avoir plus de détails pour pouvoir se prononcer par rapport à ça.
Lorsque vous regardez de l'extérieur le bras de fer à venir entre les médecins omnipraticiens puis le gouvernement du Québec, en lien essentiellement là, avec le non-renouvellement d'une prime là, pour la prise en charge de patients sur le guichet, ben, craignez-vous qu'en bout de ligne, ces patients-là là, qui ne seront pas pris en charge vont refouler à l'urgence?
Oui, mais de manière intéressante, là, quand le gap a été mis en place l'année dernière, on a vraiment vu une diminution d'environ 10 % dans nos patients dans nos urgences. Là. Il y a à peu près, oui, ça a vraiment bien fonctionné. Malheureusement, cette année, depuis le mois de janvier, le mois de février, ça fonctionne pas. On est retourné à des chiffres là, aussi grands que l'année dernière. Puis effectivement, les patients nous le mentionnent. Puis là, on commence, il y a beaucoup de questions. Il va falloir que le ministère puis les omnipraticiens arrivent à une conclusion. On le sait que c'est pas juste les médecins qui sont la première ligne. Il faut impliquer tout le monde. C'est pour ça que le gap 2.0. Mais il faut absolument, il y a encore beaucoup trop de patients qui viennent dans nos urgences, qui pourraient aller ailleurs. Puis il faut les accompagner, c'est pas de leur faute. On le sait, là, il y a beaucoup de gens qui le disent, c'est un petit peu compliqué là, à travers le 811, le GAP, médecins de famille, les groupes de médecins de famille. Mais au final, il faut que ces patients-là soient suivis ailleurs qu'à l'urgence. Puis comme je vous le dis, là, on en parle au ministère, ça fait déjà deux mois qu'on amène les choses. Les chiffres sont revenus comme l'année dernière, donc il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il faut qu'on améliore les choses pour la population.
Bon. Dites-moi actuellement, là, comment ça se passe dans les salles d'urgence? Est-ce qu'il y a encore une fois la saison des virus? Là, est-ce qu'on en est venu à bout? Là? Est-ce qu'on peut mettre ça derrière nous? Qu'est-ce qui engorge les urgences actuellement, globalement, là, deux, trois trucs?
Bien, en ce moment, on est vraiment dans une période plus creuse. Hein? Le mois d'avril, le mois de mai, c'est des périodes où les choses sont plus sereines. Alors, il y a encore beaucoup de gastro, il y a un petit peu encore d'influenza. Mais c'est toutes les pathologies qu'on voit souvent, là, les pneumonies, les infections de reins, tous les problèmes gastro-intestinaux, beaucoup de problèmes chirurgicaux aussi. Alors, chez les personnes âgées, bon, il y a des pertes d'autonomie. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vous dirais qu'en ce moment, on est loin d'être vide, on est loin d'encore avoir des chiffres là, qu'on veut, mais c'est plus acceptable. Alors, quand on le sait, là, les urgences, 100, 120, 130, on est capable de s'arranger, mais il y a pas, ça arrive beaucoup moins souvent là, qu'on a le 160, 180, où est-ce que nous, on trouve ça dangereux quand ça fait plus que 2-3 jours. Mais c'est en ce moment qu'il faut améliorer les choses, parce que je peux vous dire, cette année, pour la première fois, on parle déjà de l'influenza de 2024, 2025.
Êtes-vous sérieux, hein?
Puis moi, depuis que je suis impliqué là-dedans, c'est la première fois même qu'on en parle. Fait que ça, c'est très positif. Ça veut-tu dire qu'on va avoir des résultats? Non, mais au moins d'en parler, c'est déjà la moitié de la solution qui est commencée.
Ben, on vous le souhaite. Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Merci beaucoup pour votre temps.
Merci, M. Dubé.
Au revoir.